RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Surtout n'écoutez pas comment je me mouche, hein. C'est pas beau écouter ça. Bon. Mais par contre, je vais vous lire ce que un certain Émile Goudot a écrit aux nouveaux hydropathes de maintenant. Hein. Alors ces hydropathes, ils ont 25 ans maintenant. Mais Émile Goudot a créé le même club en 1879. Et figurez-vous, on lui avait fait une fête, et il a répondu. Alors il m'a dit, il a écrit comme ça, « Mes petits, permettez-moi que je vous appelle mes petits, moi, Émile Goudot, je suis un peu raboté avec mes 157 ans, de savoir que des petits gars à Périgueux me remettent en selle et en prose, après un siècle passé, dans ce cimetière Saint-Vincent, envahi par des vers qui n'ont même plus de mots. » Oui, parce que nous, les vers à nous, ils ont des mots, hein. Même les verres de vin, d'ailleurs. « Sachez que depuis mon absence, je purge une lourde peine, celle d'avoir fait trop de parisianisme. Et vous avez bien raison de me le reprocher, Périgueux, ah, cette bonne ville qui m'a vu naître et qui me fait renaître, alors que je ne le mérite toujours pas. Mes amis, soyez remerciés de m'avoir remis sur les rails de la poésie, alors que mon chemin n'était pas de faire une carrière dans votre ville. » Alors, comme cela, vous avez repris le nom des hydropathes ? Et j'ai une place. Combien allez-vous me verser pour avoir utilisé mon nom sans autorisation ? Je sais, c'est le poète du Coder. Il n'a pas pu s'empêcher de me faire un tour de couillon, hein, en me propulsant de nouveau dans le monde des bons vivants. Et en plus, rue de la Sagesse, dans ce lieu que l'on nomme à l'Arnôtre. Ça, c'était à l'époque, on était à l'Arnôtre. Mais on a déménagé plusieurs fois. Hein. En 25 ans, vous pensez bien que... Hein. C'est marrant quand on sait que je m'appliquais à foutre le bordel avec les hydropathes dans un Paris académiquement morne. Jeannot, c'est bien comme cela que l'on l'appelle. Et au fait, tes fameuses palmes, tu t'en sers encore pour naviguer entre deux vers et qui n'ont plus de goût d'eau ? Bon, allez, je reviens dans cette affaire du droit à l'image. En échange de mon silence, j'aimerais bien que vous me fassiez une petite toilette. Juste un rafraîchissement de cette pierre qui est tombée sur mon ventre depuis un siècle. Il paraît que votre nouveau président indique le lieu, la date et l'heure de ses poèmes. Quelle idée ! C'est encore un original, ce petit, l'esprit hydropathe. Il me fait penser à Alphonse Allais et à Coquelin Cadet, qui trouvait toujours que la vie sentait un peu trop la guimauve et le balai de coco quand ce n'était pas celui des latrines. Hein ? Vous avez, au travers de cette exposition, rassemblé mes copains, les hydropathes, mais mon petit doigt, devenu quelque peu squelettique, me dit que le père Aristide Bruand y était aussi présent. Celui-là, normalement, il avait boudé notre cercle parce qu'il se croyait supérieur à nous, avec ses chansons qui sentaient le pavé. Il faut toujours un trouble-fête dans la fête. Enfin, c'est vous qui voyez maintenant, hein. Allez, mes petits, soyez gentils de fermer la porte avant de repartir, car les courants d'air me dessèchent encore plus maintenant, car ça fait un siècle que je me traîne sur le boulevard des Allongés, dans un Paris plein de mots et de pollution verbale comme trou de balle. La chute est pas mal, hein. C'est du style de mon copain Alphonse Allais. Émile Goudot, président des hydropathes de Paris, président des Hirsutes, réellement réécrit par le président des hydropathes de Périgueux, Maurice Meulier. Enfin, ce texte, c'est moi qui l'ai écrit. Je me suis fait passer pour le premier président des hydropathes, voilà. C'était pas mal, hein, pour y croire, hein. Ben oui. Sauf que moi, je suis pas encore au boulevard des Allongés, hein, je vous préviens. Je m'allonge le soir pour aller dormir, oui, ou des fois l'après-midi pour faire la sieste, mais pas définitivement, je me relève. Comme on dit, je me relève comme un... Oh, il y a un nom, là, je suis pas un espèce de dieu, je sais plus comment, là. Pas un elfe, un zénith, voilà, le zénith, voilà, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, hein ? C'est pas mal, quand même, hein, hein, d'aller prendre la place du vieux Émile Goudot, hein ? Ben oui, mais on peut, hein. C'est comme, je pourrais très bien vous faire un poème en vous faisant croire que c'est Victor Hugo, par exemple. Ben oui, c'est facile, hein. Alors, je reprends Jean-Pierre Ménard. Bon, Jean-Pierre Ménard, il a écrit beaucoup de bouquins. Il a même écrit un bouquin sous un faux nom. On appelle ça un pseudo, hein. Et là, c'est « Soir d'été de ma jeunesse ». Alors là, bon, Il devait être jeune, hein. J'aime les soirs d'été quand doucement tombe la nuit. Dans les prairies baignées par la lune naissante, monte le chant acide et lancinant des grillons. Sur le vieux banc de bois, nos corps fatigués boivent la fraîcheur de la brise d'été. Oh, que c'est beau. Oh, je sais pas si je peux continuer. Oh, si, allez, on va continuer quand même. La volaille se tait, le cochon dans son étable pousse un dernier grognement. Tout près, les vaches secouent bruyamment la tête, faisant trembler leur collier comme le bois des crèches. L'odeur du tas de fumée flotte. Oh, sentez un peu comme ça sent bon. Allez, avec vos narines, aspirez un peu plus. Ah ouais, Arène-Marie, tu as senti le fumier comme il... Ah, il est frais, il est... Ah, c'est étonnamment bon. Oh là là, que c'est beau. Alors, l'odeur du tas de fumée flotte au-dessus de la cour. Et la brise de nuit, ça la disperse. Le fond dans la senteur des bois proches. Celle des foins coupés. Celle plus entêtante des haies de buis. Sur le banc de bois, les voix se font chuchotantes. Sous l'œil bienveillant de l'étoile du berger et d'un bout de lune encore endormi. Soir d'été de mon enfance, le temps vous a emporté dans ce vaporeux néandre. Aux confins des univers où plonge ma mémoire, qui gonfle mon vieux cœur et du bonheur sans nuage, quand s'éveillent en moi les souvenirs des étés de mon enfance. Oh, que c'est beau. Il me l'a piqué, ce poème-là, parce que j'aurais pu l'écrire. Hein. Alors, bien sûr, je vous dis ça maintenant que j'ai lu, mais en vérité, j'aurais pu l'écrire, ce poème. Hein. Non, il n'est pas sympa, ce mec-là. Hein. J'aurais pu quand même le garder pour moi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour la peine, on fait un spécial Prévert, mais c'est vrai que, bon, vous avez vu, je suis tellement bavard qu'en une demi-heure, on ne fait pas beaucoup de musique. Hein. Bon, si, c'est ma musique à moi, hein, mais c'est pas la même. Les ramasseurs de neige, et c'est lu ou chanté, je ne sais pas, par Catherine Sauvage, mais c'est naturellement Prévert qui l'a écrit.
Nos cheminées sont vides, nos poches retournées, nos cheminées sont vides, nos souliers sont crevés. Pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël. Mais v'là la neige qui tombe de tout en haut. Elle a dû se faire mal en tombant de si haut. Courons, courons vers elle, courons, courons avec nos pelles. Courons la ramasser, puisque c'est notre métier. Jolie neige nouvelle, toi qu'arrive du ciel. Donne-nous des nouvelles, des choses de ce côté. Dis-nous, dis-nous la belle, dis-nous en vérité. Quand est-ce donc à Noël? Tomberont de là-haut les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Nos cheminées sont vides, nos poches retournées. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie. est belle, ohé, joyeux Noël.
Eh bien, oui, on est en plein dedans. Pourtant, c'est seulement que dans 20 jours. Mais il faut prendre un peu d'avance quand même. Il faut commencer à donner l'impression aux gens que c'est bientôt que ça va arriver, hein, que c'est une histoire de jours seulement. Hein. Eh bien, pour la peine. Et on le fait, et je l'ai pas fait exprès pourtant. Hein. Là, Émile Goudeau, vous savez, celui dont je viens de parler tout à l'heure, là. Eh ben, il a fait un poème qui s'appelle « Le bonhomme Noël ». Oh, oh, décidément, hein, tout le monde parle du Père Noël en ce moment. Hein. J'en ai un juste devant moi, là. Il est assis sur un rocking chair, il bouge pas, il m'écoute, il fait des sourires de temps en temps. Et juste derrière lui, il y en a un autre. Mais c'est pas un Père Noël, il le deviendra, sûr, vu qu'il a une grande barbe noire, des grands cheveux longs, les lunettes, le nez pas encore rouge. Il commence à avoir un peu de bidon, hein. Mais il est jeune, il a le temps. Il pourra m'en placer plus tard, peut-être. Donc, vous voyez, il y a trois Pères Noël dans le studio. Hein. Il y a le faux, le vrai et le prochain. Voilà. Ça pourrait faire un beau poème, ça. Le faux Père Noël, le vrai Père Noël, le prochain Père Noël. Et le prochain, il attendait son tour. Mais soudain, ses cheveux, sa barbe devenir blanc, 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 blanc. Et il termina dans la neige. Mais parce qu'au final, c'était des flocons de neige, le Père Noël. Oui, bon là, j'improvise, hein, bonjour. Mais attendez, là, je ne vais pas improviser, là, parce que c'est du Émile Goudeau. Hein. Le bonhomme Noël. Le bonhomme Noël, courant à perte d'haleine, sa belle barbe blanche au vent, escalade le mont et traverse la plaine. Consultant sa montre, souvent, son fardeau de jouet a ralenti sa course. Quelle heure est-il au boulevard? Et quelle heure au cadran divin de la grande ours? Noël a peur d'être en retard. Ce n'est point sans raison qu'il se fait de la bile, car il est seul aujourd'hui à ne pouvoir aller dans une automobile. Là où le devoir le conduit, c'est un record. Il doit accomplir sa tournée, tout en haut, sur les toits pointus, pour de là projeter dans chaque cheminée, des mille cadeaux attendus. Comment aller dans une auto, sur des toitures, pleines de déclins malfaisants? Ben oui, il va nous le dire. Pour un bon gentleman de qui les ossatures datent depuis 1904, voilà. Alors, paraît-il, ça, le Père Noël est né en 1904, hein, bon. Et l'excellent Noël se dépêche et bougonne, trouvant Paris de plus en plus énorme et surhumain, ville où l'on s'époumonne à courir comme des perdus. Et puis la cheminée ancienne, qu'elle est rare, avec sa cendre au ton exquis. Partout, encombrement d'une fonte barbare, salamandre et choukbekski, où loger là, dans les tambours, la poupée, la cuirasse avec le mousquet, le casque, le plumet, la trompe et l'épée. Ou même un simple bilboquet, et trop de toit, trop haut, trop glissant, trop funeste pour les vieux pieds du vieux Noël. Néanmoins, il se hâte, en faisant de grands gestes. Sa barbe blanche fend le ciel. Mais soudain, du tréfonds de l'ombre épaisse et froide, non loin des lugubres fortifs, surgissent brandissant le fer. Dans leurs mains froides, trois ou quatre apaches furent-ils. Ils ont de longs couteaux à virole, et probables, dans leurs poches des revolvers, des casques et des melons inébarrables. Leurs crânes velus sont couverts. Ils s'avancent d'un sourd pas, et muets et neutres, dans le silence de la nuit. Car ils ont à leurs pieds des chaussures de feutre, qui ne font sur le sol aucun bruit. Ils sont lestes et forts, et de plus, ils sont quatre, contre le bonhomme Noël, naturellement. Ils vont assurément en un clin d'œil abattre, sauf hasard providentiel. Que peut-il de ce vieillard, seul contre quatre apaches à l'assassinat exercé? Il faudrait de grands sabres, de fortes haches. Il n'a que des marrons glacés. Marrons? Mais quels marrons, par un miracle étrange! Ils sont plus durs que de l'acier. Et l'entend bientôt, en roulement dans la fange, les quatre apaches crier « N'en jetez plus !» Mais lui, vengeur inéluctable, pend sur l'œil, l'oreille ou le nez, pend, pend, croulé, marron, un bandit lamentable, hurle « Nous avons étrenné !» Alors Noël, riant dans sa barbe éternelle, les étrenne avec les jouets, leur lança la poupée et le polichinelle qui se transforme en boulet. « Grâce, mon vieux Noël, et lui, je vous pardonne, décampez, je vous le permets. » Il parlait bien dans ce temps-là. Mais attends, mais d'attenter foi de Noël à ma personne, et ça, ne l'essayez jamais, car me dévaliser, c'est voler l'espérance d'un sourire joyeux et clair que je dois apporter chaque année à l'enfance, moi, le sourire de l'hiver. Ils ont fui. Alors, le vieux contemple les désastres. Tous ses jouets gisent, brisés, graves de son grand œil, il consulte les astres et les nuages irisés. La grande ours est là-haut, et la lune à l'encontre, les étoiles dans le ciel froid ont l'air de chuchoter vers Noël qui leur montre son fourmillement désarroi. Alors voici, Noël cueille des fleurs à d'étoiles pour créer des objets exquis, comme on n'en verra pas dans les sinistres poils, salamande ou chouc-berry. Alors ça, ça doit être des poils, ça. Alors la salamande, bon, on se connaît, mais alors le chouc-berski, non. Alors, lorsque l'aube survient, il prend une lampée de rêve frais dans un soleil pour en faire un polichinelle ou la poupée habillée en brouillard vermeil. Il construit sans rien emprunter à la fabrique plus d'un délicieux pantin et même 400 chevaux à mécanique dans le vent frais du matin. Car Noël, c'est un peu le rayon dans la brume de l'idéal dans le réel. Le bonhomme, sous sa barbe de blanche écume, cache un peu de rose du ciel. C'est pas beau, ça, hein? Eh bien, il s'en est sorti des Apaches, hein? Ah oui. Enfin, c'était presque un western, ce truc-là. Tu vois, hein? Ce poème, c'était presque un western. Eh oui. C'est beau, hein? Oh là. Alors ça, c'est du Émile Goudot, vous voyez. Hein? Alors, je sais pas de lui ressembler, parce que, bon, on n'est pas dans la même époque, on n'écrit pas de la même façon. Ben, je ressemble plutôt à Prévert, moi, Prévert. Et puis, j'aimerais aussi faire du Victor Hugo. Bon, ça, il va falloir que je travaille durement, hein. Je vais être obligé de lire toutes les œuvres de Victor Hugo, vous vous rendez compte? J'en ai au moins pour un siècle, hein, facile. Ah oui, c'est incroyable. Bon, alors, bon, allez, je reprends mon deuxième tome de Balade poétique au travers d'un Prévert. Et alors, ce fut écrit en 2019 quand même, hein, à 80 le matin, bien sûr. J'écris beaucoup en fin de nuit, voilà, vers 5h, 4h, parce que je dors plus, les idées sont fraîches. Bon, je suis dans un état de réveil, avec l'envie d'écrire, et donc j'écris, voilà. C'est bientôt hier. Voilà, c'est ça, ça c'est le titre. Avant-hier, je voulais être hier. Et aujourd'hui, j'aimerais ne pas être demain. Que faire quand on me fait coucou plusieurs fois par jour après avoir avalé une couleuvre? L'autre jour, en me lavant à l'avance et à l'endroit du derrière, j'aperçus bien l'avant-demain et surtout hier que mon fessier ressemblait de plus en plus au visage de ma belle-mère. Ah, messieurs, regardez bien. Mettez une glace derrière et vous verrez, en général, vos fesses ressemblent à votre belle-mère. Et si vous n'avez pas de belle-mère, vous inquiétez pas, ça sera quand même le visage de votre future belle-mère. Bon, allez. Et je lui en voulais de vouloir me ressembler naturellement. Moi qui ne voulais ressembler à personne, j'ai pris la décision de divorcer d'avec sa fille. Voilà. Hein. Pourtant, elle ne me ressemblait pas du tout. Hein. En deuxième nom, je choisis une orpheline de père et de mère pour être sûr que mon arrière-train ne ressemblerait à personne. Sinon qu'à une hypothétique cheftaine de gare dont le derrière du devant serait différent du mien. Hein. Revenons à mon horloge biologique installée confortablement avec un coucou en première noce. Le lendemain de ma nuit de noces passée, la veille juste avant le quart d'heure périgourdin, mon horloge bio, et toujours aussi logique avec elle-même, me prit par les sentiments et me fit le cri de l'oiseau blessé. Les aiguilles s'étaient fait retarder par le balancier qui revenait du ressort en captivité. Le balancier ressortit pour me dire qu'il n'était pas encore l'heure d'aller vers l'été, mais comme le printemps avait quelques feuilles de retard, j'ai cru que l'automne commençait un nouvel hiver banalisé en chantant du Prévert avec ses feuilles déjà mortes. Ce qui me fit dire qu'il n'y avait plus de raison entre les saisons. Du coup, j'ai repris hier pour demain et aujourd'hui pour avant-hier. Ce qui, par logique, c'était le jour de demain, mais bien après celui d'avant-demain. Quel jour étions-nous demain? Voilà. Hein, Alors oui, bon, c'est du Prévert, ouais, c'est du Prévert. Sauf que lui, il n'était jamais à l'heure. Hein? Bon. Alors, tiens, en parlant de Prévert, on va quand même pas le laisser. Hein? Alors, là, c'est... Alors, Philippe Lautard, j'adore. Il dit du Prévert, il s'appelle Jean de Plume.
Dans cette ville, les gens de Plume ou oiseaux rares faisaient leur numéro dans une identique volière. À très peu de choses près, c'était le même numéro. Les uns écrivaient sur les autres écrivaient sur les uns. Mais en réalité, la plupart d'entre eux n'écrivaient que sous eux. Quand ils volaient ou accomplissaient le simulacre de voler, avec ailes de géant et grand pégasogène, c'était toujours dans les hauts lieux où, paraît-il, souffle l'esprit. Ils parlaient beaucoup entre eux. Coiffés d'un grand été noir, noir, auréolé d'une lumière indiciblement blême, ils ne parlaient que d'eux et que d'œufs. Qu'avez-vous pondu, cher ami, cette année ? Et ainsi de suite, et pareillement, dans un langage analogue. Dès qu'on annonçait une omelette, ils venaient caser leurs œufs. Certains d'entre eux portaient de grandes manchettes et n'écrivaient que par elles. Les jours de fête, à la nouvelle oisellerie française, on leur jetait parfois des graines. On leur offrait un gobelet. Dans le grand jardin, une grande foule de grands solitaires, irréductibles, inséparables et néo-grégaires se rencontraient, et leur agressive et inéluctable solidarité, chacun étant pour l'autre d'une inéluctable indispensabilité, donnait lieu à de très profonds entretiens musicaux, où tous ces oiseaux rares donnaient de concert des solos, et l'on entendait l'unique cri du cœur de leur unique voix de tête, qui, d'un comme un apparent désaccord, chantait le contraire des uns sur le même air que les autres et le même air des autres sur le même contraire des uns. Mais dans cette ville, il y avait aussi des moineaux.
Et voilà. Alors j'adore sa voix. Enfin, bon, il est décédé. Hein. Il est décédé. Alors il avait un frère qui était le maire de Fréjus. Ouais. Vous savez, cette ville où la... Il y a très très longtemps, il y a, comment on appelle ça ? Oh merde, un truc qui avait cédé. Oui, un barrage qui avait cédé, oui. Ça fait, je ne sais pas combien de morts. Alors là, j'ai un poème qui a été écrit en 2013, mais que j'ai revisité en 2019. Ça m'arrive de revisiter un poème. Donc en fait, je le retravaille avec mon inspiration du moment. Ça s'appelle « Repas entre jambes bien élevées ». Ah oui, les jambes bien élevées, c'est important pendant les repas, hein, parce qu'ils ne mettent pas leurs doigts dans leur nez, tout ça. Hein. Bon. En voyant le préservatif sur le bord du saladier, elle avait compris que je ne venais pas seulement pour manger. Son calmant sentait déjà le vinaigre sans sa mère. Oh, ce n'était pas gagné d'avance. Hein. La soirée pourrait être un loupé alors qu'il avait tout préparé. Elle faisait mine de rien et lui une tête de papier mâché. La couillarde enleva son soutien-gorge sans appréhender le bruit que cela ferait sur le plancher. Heureusement, elle avait un avantage sur les jeunes filles. Son corps sentait la framboise sauvage et parfois le loup quand il n'y était pas. L'homme assis sur l'escabeau, usé par le temps, la regardait ranger ce dessous féminin sur le valet de la chambrière. Elle avait... garder le dessous, qui ressemblait étrangement à un string, pour économiquement faible. Économie de bout de ficelle, aurait dit mon grand-père, celui qui était moustachu. La cougarde fit signe à l'homme de descendre de son perchoir. Il posa la clé à molette qui lui avait servi à libérer les boulons du soutien-gorge, et de l'autre main, il tenta d'attraper le sein gauche. Impossible, sa main était trop petite. C'est seulement en y mettant les deux qu'il réussit à en prendre assez pour faire réagir le téton. Il était fier d'avoir enfin réussi cet exploit, car il était le 99e candidat à cette épreuve du saut à l'élastique de string. Du coup, sa candidature fut acceptée, mais il ne voulait pas être son amant. Il préfère adopter un petit chat tigré à la SPA. C'est pas beau, ça, hein ? C'est vrai, hein ? C'est arrivé, ça. C'est un copain à moi qui était comme ça, qui m'a raconté comment ça s'était passé. Et alors, comme il me reste 3 minutes, je ne pourrais pas vous donner la suite, hein, parce que la suite, après, elle est un peu longue. Hein. Ouais, parce qu'il était un peu feignant sur les bords, donc il a mis beaucoup de temps pour y arriver. Hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez. Alors, pour la peine, tiens, on va faire un exploit. Non, je ne peux pas. J'ai deux prévers encore, mais ils font plus de 3 minutes. Alors, on peut le faire, tiens. Les scieurs de souliers de Broadway par Yves Montand.
Aujourd'hui, l'homme blanc ne s'étonne plus de rien. Et quand il jette à l'enfant noir, au gentil cireur de Broadway, une misérable pièce de monnaie, il ne prend pas la peine de voir les reflets du soleil miroitant à ses pieds. Et comme il va se perdre dans la foule de Broadway, c'est pas indifférent, emporte la lumière que l'enfant noir a prise au piège en véritable homme du métier. La fugitive petite lumière que l'enfant noir aux dents de neige a doucement apprivoisée. Avec une vieille brosse, avec un vieux chiffon, avec un grand sourire, avec une petite chanson. Et mon Ginebra, et mon Ginebra. La chanson qui raconte l'histoire de Tom, le grand homme noir, l'empereur des cireurs de souliers dans le ciel tout noir de Harlem. L'échoppe de Tom est dressée, tout ce qui brille dans le quartier noir, c'est lui qui les fait briller, avec ses grandes brosses, avec ses vieux chiffons, avec son grand sourire et avec ses chansons. C'est lui qui passe au blanc d'argent les vieilles espadrilles de la lune. C'est lui qui fait reluire les souliers vernis de la nuit et qui dépose devant chaque porte au grand hôtel du petit jour les chaussures neuves du matin. Les cuivres de tous les orchestres d'Harlem, c'est lui qui chante la joie de vivre, la joie de faire l'amour et la joie de danser, et puis la joie d'être ivre et la joie de chanter. Il me mène une Jenny Nebraska. Sweet Obra.
Et voilà. Et bien sur ce, je vous quitte. Alors attention, il y a du brouillard. Alors, ceux qui sont à la campagne, c'est à la tronçonneuse. Et ceux qui sont en ville, et ben c'est les anti-brouillards. Allez, là-dessus, je vous quitte. Je vous embrasse.